deuxième heure dans les locaux, cette fois de l'Institut français Centre Saint-Louis. Donc on a quitté les jolies fontaines, on a quitté les pavés, on est aussi bien ici. Nous poursuivons donc au fond la discussion que nous avons eue dans la première heure sur cette Italie, son regard sur l'Europe, et nous le faisons avec Emma Bonino, qui est l'une des figures de l'Europe en Italie. Je vous la présente dans une seconde. Et puis, nous jouerons aussi avec un nouvel invité juste après au jeu de la comparaison avec quelques autres pays du Sud, notamment comme l'Espagne ou la Grèce. On sait que comparaison n'est pas raison, mais on verra ce qu'on peut dire en tout cas, et ce sera dans un deuxième temps. Allez, allons-y.
France Inter, un jour dans le monde, édition spéciale élections européennes en direct de Rome.
Bonsoir Emma Bonino. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur France Inter, Emma Bonino. Je disais que vous êtes l'une des figures de l'Europe ici en Italie. Vous avez été élue pour la première fois en 1979, donc vous étiez du premier Parlement, élue trois fois par la suite. Vous avez été plusieurs fois ministre, toujours sénatrice et toujours fervente européenne. D'ailleurs, vous avez créé un mouvement dont on parlera qui s'appelle Plus Europa. Moi, je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur un chiffre, Emma Bonino. Ça, c'est l'Eurobaromètre, en quelque sorte, qui dit que 46% des Italiens considèrent que l'Europe ne leur a rien apporté. Quand on est comme vous, élu depuis 79, qu'on a tellement cru à l'Europe et qu'on voit ce chiffre, ça vous fait quel effet?
Mais moi, j'arrive à me dire toujours que les bienfaits que l'Europe nous a donnés, les gens le prennent, et les jeunes surtout, comme gratuit, et comme s'ils étaient toujours là depuis les deux siècles. Les jeunes surtout n'ont aucune mémoire, ni de la guerre, ni du génocide, ni de la destruction totale. Mais n'empêche que ça fait 60 ans, l'Italie était détruite, la France aussi, l'Allemagne, n'en parlons pas, la Pologne et l'Angleterre. Mais en 60 ans, exactement pour la vision, disons, de l'Union européenne ou des États-Unis d'Europe et l'appui financier américain, c'est vrai qu'on est devenu le continent le plus riche au monde. Et je parle pas seulement de riche de PNB, mais riche, on a battu l'analphabétisme, on a un social welfare un peu vieillotte, mais qui aucun d'autre pays au monde n'a.
Une couverture sociale.
Hein, comment vous
dites ? Une couverture sociale.
Ouais, voilà. L'environnement, c'est plus protégé chez nous qu'ailleurs. La sécurité alimentaire est bien plus... Mais tous les jeunes prennent tout ça comme gratuit.
Et quoi. C'est vrai ce que vous dites, Emma Bonino. Vous êtes vraiment de cette génération qui aspirait à la paix. C'est pour ça que vous avez voulu créer cette Europe. Mais du coup, à quel moment, selon vous, ça a basculé ? Qu'est-ce qui a raté ? À quel moment vous avez perdu le fil, au fond, avec cette nouvelle génération ?
Mais moi, je pense que on a eu un stop, comme une espèce de sieste pour reprendre de l'air, tout de suite après l'euro. Quand on a pensé que, effectivement, une monnaie commune, c'était un tel pas qu'on avait besoin de réfléchir. Bien le contraire, quand la tempête financière est arrivée, on a tout de suite compris que même la monnaie commune sans une gouvernance réelle, sans une banque de last resort,
de dernier recours,
sans un ministère du Trésor et sans le Trésor, d'ailleurs. Évidemment, c'était une structure pour le beau temps, mais quand la tempête est arrivée, on a découvert qu'on n'avait même pas la parapluie.
Donc c'est la situation économique, et on a eu l'occasion d'en parler, la situation économique en Italie, elle est difficile. C'est la situation économique qui amène à l'euroscepticisme, selon vous, la première raison, c'est ça?
Non, c'est que beaucoup de politiciens, depuis quelque temps, trouvent très facile de prendre l'Europe comme le bouc émissaire de tous nos défaillances. Et donc, comme vous imaginez, c'est très facile. Nous, on a une dette publique insupportable. Les intérêts de la dette, déjà pour vous dire, c'est 65 milliards d'euros, qui est, pour vous donner un point qui est complètement le budget du ministère de l'Instruction. Okay? Et cette dette publique continue à monter, vu la loi budgétaire qui vient de passer. Mais le manque de réforme de l'infrastructure, la question de la bureaucratie, la question du système pénal en Italie, un procès, moyennement, ça dure 7 ans. Donc, c'est pas inducif pour attraire des investissements, ni italiens, ni étrangers d'ailleurs.
Mais aujourd'hui, Emma Bonino, ce qu'on voit aujourd'hui en Italie, quand on voit cette coalition qui est au pouvoir, qui est une espèce d'alliance qu'on qualifie nous d'un peu baroque, mais entre deux euroscepticismes, quand on voit les chiffres aujourd'hui qui sont ceux des sondages pour les élections européennes où la Ligue est extrêmement en tête, qu'est-ce que vous dites, vous, qu'est-ce que vous dites à j'ai vu qu'il y avait quelques drapeaux italiens, drapeaux européens dans la rue, qu'est-ce que vous dites, vous, à quelqu'un qui aujourd'hui est un eurosceptique qui n'y croit plus, qui ne veut plus y aller.
Mais d'abord qu'il n'y a pas d'alternative. Si vous regardez autour, vous avez Poutine d'un côté, la Chine de l'autre, Trump de l'autre côté, qui n'est pas exactement un ami de l'Europe, pour être clair, et la Méditerranée dans un chaos très préoccupant d'ailleurs, même sur les derniers événements en Libye, mais une possibilité de contagion sur la Tunisie et l'Algérie, qui ne sont pas stables du tout, et ce qui se passe au Soudan. Donc, si dans cet environnement, nous pensons que chacun sait mieux pour soi, on est vraiment, on n'a pas bien compris de quoi on parle. Il faudrait peut-être à quelqu'un faire cadeau d'une map.
Une carte du monde pour qu'ils comprennent effectivement où chacun se situe.
Un mapa mondo pour qu'ils comprennent exactement ce qui est en train de se passer au-delà des Alpes.
Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques erreurs collectives qui ont été faites là récemment? On a beaucoup évoqué le problème des migrants dans la première heure et forcément on est obligé d'y revenir. On a beaucoup entendu les Italiens dire à l'Europe, attendez, vous nous avez laissé tout seuls, vous nous avez laissé tomber. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité là-dedans quand même?
Il y a une part de vérité, mais aussi c'est pas l'Europe qui nous a laissés seuls, c'est les États membres de l'Union européenne. Parce que l'immigration, voire l'intégration, n'est pas un pouvoir de la Commission européenne. C'est une politique de chacun pour soi. C'est le Conseil, le sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui peut décider seulement à l'unanimité, ce qui n'arrive jamais, et donc chacun fait pour soi. La défense des frontières externes, par exemple, c'est la même chose. On n'a jamais voulu mettre en commun. C'est là que le projet d'intégration politique s'est fermé, quoi.
Mais arrêté. Et est-ce que au fond, ce qu'on entend de Matteo Salvini aujourd'hui, est-ce que au fond il n'a pas aussi mis les pieds dans le plat et obligé l'Europe à réfléchir à des solutions
À faire quoi?
À réfléchir à des solutions.
D'abord, il faudrait qu'il commence à réfléchir.
Alors lui, je ne sais pas, mais obliger l'Europe à réfléchir.
Non, pour commencer. Et qu'il commence à réfléchir ses amis préférés, de Orban à Kaczynski, etc., etc. C'est bien le groupe de Visegrad qui a été le plus contraire à assumer n'importe quel...
Sauf qu'il n'arrive pas à s'allier pour l'instant avec le groupe de Visegrad. C'est intéressant à observer.
Parce que les nationalismes ont très difficile à faire des alliances.
Comment vous différenciez-vous l'euroscepticisme de la Ligue et celui du mouvement 5 étoiles? Sur quel terrain vous avez l'impression qu'ils se rassemblent ces deux-là?
J'ai aucune idée parce que, mais c'est vrai que le mouvement 5 étoiles n'a pas beaucoup d'intérêt, effectivement, ni à l'Europe, ni à la politique étrangère. Et si vous voyez tous les débats qui se passent chaque jour, entre les deux, ont toujours affaire à des questions italo-italiennes. Et c'est vrai que Salvini est en train
En France aussi, on n'a que des débats franco-français, je vous rassure, sur les élections européennes.
Mais ça a été toujours comme ça. Depuis 79, on essaye de faire des élections européennes sur les problèmes de l'Europe. Pas question.
Est-ce qu'il fallait des listes, je fais une parenthèse, il fallait des listes transnationales, par exemple? Est-ce que ça aiderait à parler d'Europe pendant les élections européennes?
Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'il faut augmenter le taux de démocratie des institutions européennes. Mais la démocratie, c'est un procès. C'est pas un truc qui se fait un jour et reste là pour toujours. Les démocraties, qui sont, par définition, imparfaites, mais sont un procès, donc ils peuvent aller de l'avant, et si on ne les soigne pas et on ne les pousse pas, elles vont aussi à l'arrière. Jacques Delors disait que l'Europe est comme une bicyclette. Si vous ne pédalez pas,
vous tombez.
C'est pas que vous restez là comme... Or, le status quo, c'est pas adéquat aux environnements qui nous entourent et aussi aux problèmes internes que nous avons. C'est pour ça qu'il faut aller de l'avant. Il faut pousser. C'est pas une bonne raison pour couler le bateau.
Est-ce que le bateau coule, puisque c'est vous qui employez ce terme-là, regardez autour de nous, le Brexit, donc l'Italie dont on est en train de parler, le groupe de Visegrad que vous avez évoqué, le couple fort habituel, en tout cas Emmanuel Macron est en difficulté en France, Angela Merkel est en difficulté en Allemagne. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train aujourd'hui de voir la fin de l'Europe telle que vous la connaissez,
telle que vous l'avez construite ? Non, je ne vais même pas y penser. Et je n'ai pas le temps de me plaindre. C'est pour ça qu'il faut avoir de l'énergie, du courage, de la conviction pour aller de l'avant.
Mais le danger...
J'ai été minoritaire toute ma vie. Avant de gagner des batailles, j'ai passé des années de... Je sais pas, mais...
Vous avez gagné quelques élections, donc à un moment, vous avez été majoritaire.
Non, j'ai gagné d'autres batailles civiles dont je suis très fière. Mais c'est exactement pourquoi plus d'Europe est nécessaire. Parce que la majorité va de l'autre côté, il faut bien quelqu'un qui dise les deux vérités, même s'ils sont pour le moment pas tellement... C'est pas nécessaire d'être populiste, mais il faut devenir populaire. Essayer de faire comprendre aux jeunes dans l'université, etc., etc. Mais quelle est l'alternative? Je le demande tout le temps. Chères mesdames et messieurs, vous préférez aller chacun pour soi. Ça, déjà... C'est particulier. Mais dites-moi, cette Europe que vous détestez, et c'est pas vrai, mais vous la prenez comme bouc émissaire, dites-moi une alternative. Dites-moi. Et il fallait bien un président des États-Unis qui rappelle à nous tous et à nos leaders que l'Union européenne, c'est le plus grand projet politique qui s'est affirmé. Il n'y a rien de pareil, ni en Amérique du Sud, ni en Asie, ni nulle part au monde.
Alors, essayons de voir la bouteille à moitié pleine pour terminer. Est-ce que, prenons les choses à l'envers, est-ce que, par exemple, le fait que les Britanniques, alors j'allais dire que les Britanniques s'en aillent, en même temps, au moment où on se parle, on ne sait plus trop s'ils s'en vont et s'ils restent. Mais enfin, dans l'hypothèse où les Britanniques s'en vont, est-ce que c'est pas, au fond, pour vous, l'Italie, pour d'autres peut-être aussi, mais pour vous, l'Italie, une opportunité pour vous replacer sur une autre marche dans l'Europe désormais?
Oui, peut-être. Mais en effet, on ne peut rien faire à ce stade avec la Grande-Bretagne. C'est à eux de décider. Et si je comprends bien, c'est un peu compliqué.
Un peu, juste un tout petit peu. Mais... C'est plus compliqué que l'Italie, c'est vous dire.
C'est un euphémisme. C'est un peu compliqué. Mais de toute façon, si ce sera ça la réalité, il faut exactement aller de l'avant et faire comment, en espérant qu'un jour ils reviennent. C'est pas exactement une autre raison pour
se croiser les bras.
Je vois que vous croiser les bras.
Voilà, je vois que vous faites le signe pour vous croiser les bras. Une dernière question avant de vous laisser, Madame Bonino, vous avez créé ce mouvement qui s'appelle Plus Europa. J'allais dire pourquoi, en fait.
Exactement, pourquoi, pour ça.
Pourquoi il faut que vous-même, Emma Bonino, qui êtes, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est, votre carrière, vous l'avez faite, elle est vraiment derrière vous. Pourquoi vous avez besoin, l'année dernière, là,
écoutez,
de créer
moi,
ce mouvement-là?
Écoutez, moi, déjà, pour commencer, je suis jeune.
Plus que moi, visiblement. Vous avez bien raison, bien plus que moi.
Hein?
Voilà.
Et mon professeur chéri.
Il y a Fulco Lanchester qui parlera tout à l'heure et qui confirme. Donc moi, je vais juste me taire, je vais vous laisser là. Allez-y.
Non, mais la question était...
Pourquoi créer ce nouveau mouvement, en fait? Qu'est-ce qu'il essaye d'accrocher?
Parce
ce
qu'en
plus
deux mots, il dit les choses simples. Il faut aimer l'Europe comme elle est pour être crédible, pour la pousser de l'avant. Hein? Il faut sauver le bon qu'elle a fait jusqu'à maintenant, y compris les erreurs. Mais les erreurs, c'est typique de... tout le monde fait des erreurs. Mais il faut reprendre le bienfait et le bonheur que nous a donné en termes aussi de liberté. La liberté, le respect de l'individu. Imparfait comme toujours. Mais pour pousser l'Europe de l'avant, il faut l'aimer. Il faut l'apprécier. Il faut bien rendre honneur à ce que nos pères ont pu faire jusqu'à maintenant.
Et ce sera votre phrase de conclusion. Merci beaucoup. Merci vraiment, Emma Bonino, de votre passage avec nous ici à Rome. Merci vraiment et merci pour ce plaidoyer aussi pour l'Europe. On en entend finalement pas souvent, de moins en moins, peut-être pas tant que ça en Italie d'ailleurs. Merci vraiment.
Grazie.
Et, mais merci à vous. Je ne pouvais même pas m'essayer à dire deux, trois mots en italien, peut-être une prochaine fois. Allez, vous savez qu'à chaque déplacement que nous faisons, et on en a fait quelques-uns avec le 18-20, on essaye de regarder un peu chez nos voisins immédiats. Je disais tout à l'heure que comparaison n'était pas forcément raison, mais enfin, il y a quand même des choses à aller picorer à droite et à gauche. On va aller en Grèce, on va aller en Espagne. Je voudrais saluer notre prochain invité. Bonsoir, Fulco Lanchester. Bon, approchez-vous du micro, parce que vous êtes bien loin, voilà. Oui. Faites voir, montrez-moi votre voix de stentor. Ah, mais oui, ça va beaucoup mieux comme ça. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université.
Non, pas. Je suis professeur de droit constitutionnel italien et comparé. Et je suis fier de l'être.
Eh ben, je vois bien. Et comme ça, c'est corrigé.
Je suis un juriste, mais comme le juriste français,
vous aimez les choses précises.
Oui. Non seulement, je suis prêt aussi de la science politique.
Eh bien écoutez, comme ça au moins c'est dit, et c'est très clair. Allez, chaque chose en son temps, Angélique Boin qui est restée avec nous, je voudrais qu'on aille d'abord en Grèce, Angélique, et que vous nous fassiez un peu une photo de ce pays, la Grèce, dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, mais qui a quand même encore beaucoup de choses à dire.
Et oui, alors la Grèce, d'abord, rappelons-le, c'est un petit poussé européen qui a donné bien du fil à retordre aux bureaucrates de Bruxelles et dont la population, vous le savez, a beaucoup souffert d'une décennie de plans d'austérité. Un seul chiffre pour le situer d'abord économiquement dans l'Union. Son poids économique, c'est 1,6% du PIB de la zone euro, contre par exemple 15% pour l'Italie. La Grèce est membre de l'Union depuis 1980. Le pays s'est beaucoup développé, hein, comme partout, grâce aux fonds structurels et aux aides agricoles. Et pour les Grecs, eh bien l'Europe, c'était synonyme de croissance, c'était que du bonheur. 2008 va être vécu comme une gifle. Le pays frôle la faillite. La Grèce sera sauvée in extremis du Grexit en 2015. Trois plans de sauvetage successifs sous contrôle de l'Union européenne et du FMI. Ce sont quelque 260 milliards d'euros d'aide déboursés en échange de sacrifices très lourds, des sommes qu'il faudra d'ailleurs rembourser. Trois plans d'austérité, des plans qui ont pris fin l'été dernier. Mais Athènes reste néanmoins sous surveillance renforcée de Bruxelles. En clair, il y a encore des fonctionnaires qui vont régulièrement sur place vérifier que les réformes promises sont bien menées. Et puis la Grèce, eh bien, a renoué avec la croissance en 2017, mais affiche toujours le pire taux de chômage en Europe, 20%. Il est monté à 27% en 2013 et 36% des jeunes, eh bien, sont au chômage.
Alors, une Grèce aussi, c'est important de le souligner, qui a beaucoup souffert, vous l'avez dit, qui a porté à sa tête une extrême gauche, celle d'Alexis Tsipras, c'était en 2015.
Oui, et dans ses rapports avec l'Union européenne, ça a été compliqué. Un temps, il envisage de rompre avec Bruxelles et finalement, il rentre dans le rang en quelque sorte et se convertit au sérieux budgétaire. Il poursuit les réformes, il obtient finalement ce troisième plan d'aide qui vient de se terminer. Et puis, donc, autre point commun avec l'Italie, l'arrivée massive de migrants en 2015 et 2016, des camps surpeuplés. Les arrivées se sont taries depuis la signature d'un accord avec Bruxelles et les Turcs en mars 2016, mais ce tout petit pays de 11 millions d'habitants a vu, accrochez-vous bien, arriver plus d'un million de migrants sur ses côtes depuis 2013. En 2018, 56 000, à égalité avec l'Espagne. Alors, on est quand même loin devant l'Italie, qui râle le plus, on l'a dit tout à l'heure, qui en a accueilli, je le rappelle, 23 000.
On va revenir sur tout ce que vous nous dites dans un instant. Je voudrais qu'on aille faire un tour, justement, en Grèce, grâce à Audrey Tison, au reportage. On parlait des services publics, effectivement, qui se portent mal, qui essayent de remonter. C'est pas toujours si simple. On écoute le reportage d'Audrey, on se retrouve juste après.
Nous avons rendez-vous à l'hôpital Tsagno, non loin du port du Pirée. Ce soir, les couloirs sont relativement calmes. D'habitude, ils grouillent d'activité.
On a moins de personnel et plus de patients. Les délais sont importants. On parle de 6 ou 7 heures d'attente, c'est inadmissible. On essaie avec les médecins de faire face à tous ces patients qui viennent et qui ne peuvent pas se permettre d'aller dans le privé, mais c'est impossible.
C'est Stavros, technicien de laboratoire, qui est notre guide. Nous sommes dans l'un des 85 établissements qui a survécu à la crise. L'État a fermé une soixantaine d'hôpitaux et l'intégralité des centres de santé locaux. Moins de lieux pour soigner les malades et des conditions de travail inquiétantes.
C'est difficile de trouver des lits, des médicaments, la matière première pour soigner. Dans mon domaine, il n'y a pas de sécurité, pas d'hygiène, beaucoup de manque de matériel, le papier. On utilise des machines qu'on a en échange avec le secteur privé, qui a en partie arrêté de travailler, car ils ne sont jamais remboursés par la sécurité.
En tant que représentant syndical, Stavros dénonce aussi les baisses de salaire. Les 13e et 14e mois ont été supprimés, les heures de nuit sont désormais payées comme le jour. Des économies, le gouvernement grec en a fait dans tous les domaines. Fusion d'écoles, diminution des places en crèche, administration soumise au régime sec. Katerina a l'impression que tout tourne au ralenti.
Nous allons dans les services publics et nous voyons de nombreux emplacements vides et le service ne se fait pas correctement.
Cette trentenaire aurait notamment besoin qu'on l'aide davantage pour retrouver du travail, ne serait-ce que des petits contrats. Ses passages au Pôle emploi n'ont pas été fructueux.
J'ai l'impression d'être abandonnée. De l'aide, non, j'en ai pas eu. Je suis toute seule. Je dois seule m'inscrire à des formations pour renouveler mon CV. Toute seule, je dois faire des recherches sur Internet, tous les jours. Il n'y a rien ni personne pour m'aider. Il y a bien des conseillers privés, mais on doit les payer.
Katerina se montre fataliste. Elle habite en banlieue d'Athènes, à Pérama, l'une des villes les plus pauvres de Grèce, après la fermeture de la principale activité, les chantiers navals. Le maire de la commune, Yanis Lagoudakis, explique qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a.
Le nombre de fonctionnaires est fixé par le gouvernement. C'est donc une conséquence des politiques précédentes. En 2006, la municipalité employait 500 personnes. En 2014, quand j'ai été élu, il n'y en avait plus que 153, trois fois moins. Vous comprenez que dans ce contexte, on a dû diminuer les services.
Ces derniers temps, il a tout de même pu embaucher un peu.
Des contrats de travail de 8 mois ont été créés avec des fonds grecs, mais aussi des fonds européens. Ça permet des conditions de travail plus flexibles avec des volumes d'horaires plus restreints.
Des contrats précaires qu'il a notamment utilisés pour améliorer le ramassage des ordures. Ils peuvent aussi permettre de compenser les manques dans les écoles sur l'année scolaire. À trois quarts d'heure de route de là, la capitale, Athènes, a elle aussi subi des coupes drastiques et perdu près de la moitié de son personnel. La municipalité a dû s'adapter. Exemple dans le secteur de la propreté, Yorgos Ploulias est le vice-maire chargé de ce domaine.
Bien sûr, il y a des problèmes en ville, mais on essaie de gérer avec les gens qui restent. Une des façons de s'adapter, ça a été de créer des centres locaux de stockage des déchets. Ce sont des lieux où les petits camions amènent les poubelles et ces poubelles sont ensuite transférées par des plus gros camions. Ça économise des allers-retours, des camions et des chauffeurs.
Certains fonctionnaires estiment d'ailleurs que la crise a été une bonne occasion de dégraisser et de moderniser les services, en informatisant davantage par exemple. Est-ce à dire que l'austérité budgétaire a été une chance ?
Non, je ne considère pas que c'est une bonne chose. Dans ce pays, on va d'un extrême à l'autre. On commence avec aucune limite, on embauche tout le monde, et ensuite, on passe à l'interdiction d'embaucher qui que ce soit.
Pour lui, la priorité est de renflouer le secteur social. École, aide à domicile, la ville d'Athènes a lancé des procédures d'embauche il y a près d'un an. L'État, qui tient les cordons de la bourse, ne les a toujours pas validées.
Audrey Tison pour le reportage. Fulco Lanchester, quand on entend ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, donc on le disait, un pays qui va mieux en valeur absolue, effectivement, mais qui a quand même beaucoup de mal à se relever, est-ce que la crainte existe que l'Italie ce soit la nouvelle Grèce ?
Oui, mais si vous pensez que Francis Fukuyama a écrit le chapitre 7 de son livre « Ordre et, ordre politique et décadence politique », et il a dit que la Grèce n'a pas d'État, mais l'Italie a en partie du pays sans l'État. Mmh. Alors, c'est la vision internationale du pays. En partie, l'Italie s'est développée, c'est européenne ou autre, souffre des problèmes de chômage, des services publics déficitaires, etc. Et c'est le Sud, surtout. qui a les mêmes pourcentages de chômage ou similaires de l'Espagne et de la Grèce.
Est-ce que, vous l'avez évoqué, vous parlez des services publics, c'est ce que disait Audrey notamment dans son reportage, Audrey Tison.
Sanité.
Exactement.
Ça, c'est,
est-ce que vous retrouvez parfois du sud...
le nord.
Voilà. Mais, est-ce que vous retrouvez un peu du sud de l'Italie dans ce qu'on a décrit là en Grèce, par exemple
Pas surtout, la situation de la Grèce, c'est plus grave. Nous sommes le troisième pays industriel de l'Europe. Nous parlons toujours mal de notre pays, mais nous sommes en puissance industrielle. Nous avons en ce moment en situation plus grave des autres pays de l'Europe, qui sont naturellement... déclin électoral de grandes familles politiques, de grands partis politiques, deuxième augmentation de l'abstentionnisme, troisième volatilité électorale. Et en ce moment, nous avons le bipopulisme de gouvernement.
Justement, de votre bipopulisme, est-ce que vous feriez une comparaison à certains égards entre le Syriza de Tsipras et vos populismes à vous, dans le sens où au fond c'est l'envie de s'affranchir des critères.
Dans le 2015, Tsipras est venu au pouvoir, il a fait un référendum qui c'était contre l'Europe, mais depuis a fait des pactes avec l'Europe. Alors c'est un populisme rationnel.
Et en même temps, en Italie, vous avez un Salvini qui veut partir, mais qui finalement décide qu'il ne part pas.
Nous avons un bipopulisme différent en Italie. Un populisme traditionnel, c'est le mouvement 5 étoiles. Et un populisme soi-disant national populiste, c'est le mouvement de Salvini Lega. Alors ce sont très différentes et aussi très différentes pour l'idéologie, mais surtout pour l'organisation.
Mais avec un fil rouge, une espèce de dénominateur commun qui dit qu'il faut qu'on veut s'affranchir des règles européennes. Est-ce que ça, c'est au moins un fil rouge entre ces différents populismes européens, selon
rouge,
vous ?
Non seulement italien, c'est un fil rouge de Vox en Espagne, c'est un fil rouge d'Orban, c'est un fil rouge de Kaczynski, c'est un fil rouge surtout de l'Europe de l'Est. Alors, il y a un problème. Et le problème, c'est que nous sommes, comme disait Madame Merkel il y a 4 ans, avec la description, ce sont 3 nombres. 7, 25, 52. 7% de la population mondiale, l'Europe. 25% de PIB, alors de PIB, comme vous disiez, et 52% de la expense sociale. Ce n'est pas supportable.
Vous avez fait vous-même la transition que je voulais faire. Vous avez évoqué Vox en Espagne et on va y venir dans un instant, notamment à ce mouvement-là, puisqu'il y a des élections aussi en Espagne qui se jouent là à la fin du mois, ce qui peut aussi changer un certain nombre
mais
de choses.
Mais aussi en Grèce et en OTAN.
Absolument. Je voudrais me tourner vers vous, Angélique Bois, pour reparler un peu de cette Espagne. Avec un exemple, je sais plus où on en est, allez-y.
Avec le fait qu'on va essayer de repositionner l'Espagne par rapport à ces 3 pays, et on est aujourd'hui avec un pays qui est en première ligne dans le dossier migratoire. Voilà,
c'est
on s'est
ce
retrouvé.
Que je voulais dire.
Je rappelle qu'en 2018, on l'a dit tout à l'heure, c'est devenu la première porte d'entrée en Europe, avec 2 fois plus d'arrivées qu'en 2017. 57 000 migrants ont mis le pied en Europe l'an dernier. Hein. L'Espagne qui est dirigée depuis le mois de juin par le socialiste Pedro Sanchez, et on revient à l'Italie, puisque l'une de ses premières mesures, juste après son élection, et alors que Rome ferme ses portes, a été d'ouvrir ses portes. Hein. Il travaille alors avec Bruxelles pour que les 27 pays débloquent des aides en direction du Maroc, que les Marocains fassent en fait un peu le même travail que la Turquie pour retenir les migrants de l'autre côté des frontières. Autre point commun avec la Grèce et l'Italie, voilà encore un pays très durement touché, l'Espagne, par la crise de 2008. Très fort taux de chômage, près de 15% aujourd'hui de la population active, quasiment un jeune sur 3 sans emploi. C'est le deuxième taux de chômage le plus élevé dans la zone euro. Et puis c'est un pays qui détient le record des contrats temporaires. Hein. L'Espagne qui est rentrée dans l'Union en 1986. Ça a permis évidemment de s'ancrer dans la démocratie, de se développer aussi. Avant la crise de 2008, on parlait de miracle économique espagnol. Hein. Puis il y a la bulle immobilière, la crise bancaire, Là aussi, un plan d'aide européen. 100 milliards d'euros seront débloqués pour sauver les banques. Madrid n'en utilisera que 40 milliards. Et puis là, le redressement du pays, lui aussi, est assez spectaculaire, hein, avec des plans d'austérité, certes. Mais l'économie a retrouvé des couleurs depuis 2016, une croissance autour de 3%. Pays, là encore, très endetté, au même niveau que la France, 80% du PIB.
Et en un mot, juste un mot, Angélique, politiquement, une Espagne qui est un peu sans dessus-dessous en ce moment quand même.
Oui, oui, parce qu'il y a eu 20 ans de bipartisme gauche-droite, hein, comme dans plein de pays. Et puis, dans la foulée de l'austérité, émergent des nouveaux partis. Podemos à gauche, issu du mouvement des indignés. Ciudadanos au centre. Vox, on l'a dit, parti nationaliste, indépendantiste, anti-immigration. Entré au Parlement andalou, qui veut transformer l'essai fin avril. Et puis, évidemment, la poussée indépendantiste en Catalogne.
On va aller les voir, ces gens de Vox, justement, puisque en ce moment, ils sont en campagne pour des élections qui auront lieu à la fin du mois. C'est un reportage signé Mathieu de Taillac. Écoutez.
Le site est majestueux, une petite grotte sur le flanc d'une montagne, au milieu de la splendide chaîne des pics d'Europe. Bienvenue à Covadonga. C'est là que, selon le mythe, un guerrier chrétien, Don Pelayo, ou Pélage le Conquérant, premier roi des Asturies, aurait lancé la Reconquista pour arracher la péninsule ibérique des mains des musulmans. Les historiens relativisent largement la portée de ces escarmouches livrées au 8e siècle, pas Santiago Abascal. Le président de Vox, au pied de la statue du guerrier asturien, il brandit un porte-voix.
C'est pour le symbole si puissant d'un lieu comme Covadonga que nous sommes là, au pied de Don Pelayo. Nous sommes venus ici pour dire que l'histoire est importante. Nous n'avons aucune honte à revendiquer les symboles, à revendiquer ce qu'ont fait nos anciens tout au long des siècles. Nous sommes à Covadonga pour dire que jamais nous n'allons demander pardon pour les œuvres de nos anciens. Elles seront le guide de notre combat et de notre résistance.
Applaudissements du public d'avance pour Abascal, donc, qui revendique l'histoire nationale en flattant les épisodes du cru, sans vraiment dire ce qu'il faut retenir de l'illustre chef de guerre. Le parti que la gauche tacle de franquiste ne cite pratiquement jamais la dictature, mais parle de l'histoire et de ses personnages, comme on en parlait sous Franco. De Don Pelayo, les sympathisants, eux, retiennent surtout une valeur, l'unité de l'Espagne. Rencontre à Oviedo, dans la capitale de la région. Teresa, ex-électrice du Parti populaire de droite, est venue au meeting qui a fait salle comble. On lui demande si c'est l'indépendantisme catalan qui l'a convaincue de voter Vox.
Évidemment, parce qu'en Catalogne, une partie de la population veut être indépendante. Et tous ceux qui considèrent que l'Espagne est un seul pays, eh bien Vox nous a convaincus. Ils sont beaucoup plus émotionnels et beaucoup plus convaincants que les autres. Ils ont couvert un espace laissé par le Parti populaire qui est beaucoup plus laxiste.
C'est donc un discours dur que viennent écouter les Asturiens, comme avant eux les Andalous, un discours émotionnel qui prend aux tripes. En meeting sont laissées au second couteau les propositions du parti contre l'immigration, contre le féminisme, contre les lois mémorielles de la gauche, contre tous ceux qualifiés d'ennemis de l'Espagne, ou encore en faveur des baisses d'impôts. Le chef de Vox, lui, se réserve les symboles et les émotions. Son discours se termine inévitablement par un « Viva España » et par l'hymne national. Les militants assurent qu'ils ne sont ni fascistes, ni d'extrême droite, ni machistes.
Nada es fascista, ¿eh?
Mais simplement normaux, disent-ils, les patriotes. Sociologiquement, ce ne sont pas des skinheads que l'on croise dans les meetings, mais des classes moyennes, parfois supérieures, une vieille droite cocardière et radicalisée, des gens qui viennent du Parti populaire pour la plupart et qui, malgré les efforts de ce PP pour les faire revenir en durcissant ses propositions, disent préférer l'original à la copie.
Merci à Mathieu de Taillac pour le reportage. Foulco Lanchester, qu'est-ce qu'on peut dire de similitude entre ce Vox dont vous parliez tout à l'heure, donc le mouvement qui monte en Espagne, et vos populismes à vous en Italie? Est-ce que vous trouvez des convergences ou pas? Près du micro, s'il vous plaît.
Hop. On peut trouver des convergences avec le mouvement de Salvini, naturellement, parce que Vox est en partie et les racines duquel sont dans le franquisme. Naturellement, Salvini, c'est la Ligue du Nord de Bossi, mais il a changé surtout dans le Sud sa composition avec l'ancienne Alleanza Nazionale et le mouvement qui précédait Alleanza Nazionale, le Movimento Sociale qui s'était fait néofascistes. Alors, il y a des similitudes, mais c'est en question surtout en espagnol, parce que dans le 2014, Vox a obtenu seulement 1,2% des voix, surtout en Andalousie. Et en ce moment, dans la région socialiste, qui a eu un gouvernement du 80 jusqu'à ce jour.
Des années 80 jusqu'à aujourd'hui,
oui. Aujourd'hui, elle a obtenu 10%. Alors, les socialistes sont allés à l'opposition. Ça, c'est le problème de la gauche en Europe, mais surtout dans les pays qui ont des difficultés économiques. Parce que les gauches, les partis de la gauche traditionnelle, font en politique qui est en politique de droite plus douce.
Il y a l'une des raisons pour lesquelles Vox est montée, c'est aussi les problèmes avec la Catalogne et l'indépendantisme catalan. C'est quelque chose qui est très particulier à l'Espagne. Mais cependant, vous, à bien c'est d'autres degrés, évidemment, vous avez la Vénétie, vous avez la Lombardie. Donc, est-ce que
oui,
cette...
Mais ce n'est pas comparable.
On est d'accord.
Madame,
mais
ce n'est pas comparable.
On est bien d'accord qu'on n'est pas à la sécession. Ce que je voulais savoir, c'est si l'idée d'une Europe plus régionaliste, en fait, est quelque chose qui parle aux Italiens ou pas.
Alors, on a eu en crise de l'État national dans les années 80, 90 et en dévolution des pouvoirs vers l'Europe et vers les régions et vers les provinces, de l'autonomie en Espagne. Mais en ce moment, il y a en dévolution des pouvoirs vers les États nationaux, et surtout, on doit voir un problème. Ce sont les deux pays plus forts, l'Allemagne et la France, qui sont devenus moins européennes dans la politique. Ils ne croient pas plus sur à l'Europe comme Madame Bonino. Non, ça c'est le vrai problème.
Comme si Madame Bonino, mais pas forcément comme le reste de l'Italie, c'est.
Oui, mais vous savez, la Cour constitutionnelle allemande a dit que le Parlement européen n'est pas un Parlement. Et pour ça, on ne peut pas utiliser la seuil des 3% ou de 5%. Alors, c'est un signe symbolique du nationalisme, ou disons, de changement aussi de l'Allemagne.
Merci beaucoup. Pardon de vous interrompre, mais vraiment, il faut y aller. Merci beaucoup, Fulco Lanchester. Merci à tous, vraiment, d'avoir participé à ce 18-20 spécial à Rome. Merci à Romain Lucas, merci à Pierre Quintard, merci à Fabrice Lègle, à Amélie Stadelman. À Paris, il y a Nathalie Poitvin, il y a Marie-Claude Pinson, Arnaud Caillé et Ludovic Asselot. Salut à tous. Le 18-20 ici, c'est fini, mais on reparle d'Europe dès lundi. Et portez-vous bien.